Vous êtes avec SBS French.
Les vols internationaux vers Melbourne reprendront à partir du 8 avril. Une allégation d'agression sexuelle contre un parlementaire de la Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, 3 départements supplémentaires sur la liste des zones soumises à des restrictions sanitaires strictes. Le gouvernement du Victoria a annoncé la reprise des vols internationaux vers Melbourne à partir du 8 avril prochain. Les vols internationaux avaient été suspendus depuis le mois de février lorsqu'un employé assurant la quarantaine dans un hôtel avait contracté la variante anglaise de COVID-19, une variante qu'il a contractée d'un voyageur de retour de l'étranger. Et on se souvient que cet incident avait déclenché un confinement instantané qui aura duré 5 jours. Le gouvernement du Victoria maintient qu'il a procédé à des examens majeurs du système de quarantaine dans les hôtels et le flux d'air hors des chambres a été identifié comme la source de la fuite du virus. Le premier par intérim, James Merlino, a déclaré que le Victoria accepterait initialement jusqu'à 800 passagers par semaine avant de passer à 1120 personnes une fois que toutes les évaluations de la ventilation dans les hôtels seront terminées.
I have written to the Prime Minister advising him of Victoria's capacity in terms of returning flights and our hotel quarantine system, advocating for a nationally consistent approach to ventilation. So Victoria's the only jurisdiction that has done this additional work in terms of ventilation, so we want to share that.
Il faut rappeler que plus de 36 000 Australiens restent bloqués à l'étranger. La première de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, s'est dit choquée par une allégation selon laquelle le député Michael Johnson du parti des nationalistes aurait agressé une travailleuse du sexe dans les Blue Mountains. Monsieur Johnson a démissionné de son rôle de secrétaire parlementaire après s'être identifié comme la personne au centre de l'allégation soulevée sous le privilège parlementaire par la députée travailliste Trish Doyle. Dans ce communiqué, M. Johnson précise qu'il s'est volontairement entretenu avec la police de Nouvelle-Galles du Sud et qu'il est certain que toute enquête va prouver son innocence. Mme Berejiklian dit qu'elle n'était pas au courant de cette allégation avant qu'elle n'ait été soulevée au Parlement.
I joined everybody else in being absolutely shocked at the serious allegations that were raised and somewhat relieved that it's subject to a police investigation. I think all of us want to make sure that justice is served well and properly, and the alleged victim needs to be able to have a process where nothing is prejudiced. So I'm going to be really careful in what I say because all of us want to get to the bottom of this and want it to be done properly.
Et au niveau fédéral, le procureur général Christian Porter et la ministre de la Défense Linda Reynolds seraient sur le point de perdre leur portefeuille lors du deuxième remaniement ministériel du gouvernement fédéral dans 3 mois. Le premier ministre Scott Morrison a été confronté à de nombreuses questions sur l'avenir des deux ministres à leur retour du congé de maladie. Selon certaines informations, M. Porter perdra son portefeuille au profit de Michael Akash, tandis que les responsabilités du sénateur Reynolds devrait être confié à Peter Dutton. Le remaniement pourrait être annoncé dès demain, vendredi 26 mars. Et le premier de Tasmanie, Peter Godwin, a écrit au premier ministre l'exhortant à examiner des allégations formulées contre le sénateur libéral Eric Abetz. Cet appel intervient après que Soeki, une députée de Tasmanie, a utilisé le privilège parlementaire pour accuser le sénateur Abetz d'avoir vilipendé Brittany Higgins, cet employé parlementaire qui s'est plainte d'avoir été agressé sexuellement dans l'enceinte du Parlement. Selon la députée Sue Hickey, Eric Abetz aurait minimisé les accusations de Brittany Higgins dans une conversation en marge d'une cérémonie de citoyenneté à Hobart. M. Godwin a demandé à Scott Morrison d'examiner la question tout en sachant que le sénateur Abetz nie avoir fait ces commentaires dont on l'accuse. Le premier des Tasmanie indique que Mme Hickey lui a dévoilé les propos injurieux du sénateur Abetz il y a plusieurs semaines de cela, mais seulement dans les grosses lignes. Mme Hickey aurait révélé plus de détails lors d'une intervention au Parlement. Les autorités de Nouvelle-Galles du Sud préviennent que malgré la baisse des pluies, des inondations sont toujours attendues dans une grande partie de l'État. Le SIS, le service d'urgence de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, a émis un avis rassurant pour les centres-villes de Kempsey, Tarry Estate, North Haven et Laurieton. Il a indiqué que les résidents pouvaient y retourner en toute sécurité. Mais la situation dans d'autres parties de l'État reste préoccupante. Les autorités préviennent en effet des grosses inondations le long des fleuves et des rivières McIntyre, Guaidir, Clarence et Hawkesbury, ainsi que la Nepean et Colo. Sur les antennes de Sky News, le commissaire adjoint des SIS, Sean Keynes, a invité les riverains des zones touchées par les inondations de ne pas être complaisants.
We are still fighting that people are still trying to drive through floodwaters or they haven't listened to the evacuation orders or warnings and left and then suddenly found that their property has been inundated with water. So we are asking to people to listen to those warnings.
On signale qu'un ressortissant pakistanais de 25 ans est décédé hier après que sa voiture a été piégée par les eaux de crue dans l'ouest de Sydney. Et pendant ce temps, le corps de David Orman, cet homme de 38 ans, qui avait disparu, a été retrouvé dans sa voiture qui a été submergée dans un ruisseau inondé dans l'arrière-pays de la Gold Coast. Et le service juridique aborigène signale que 4 aborigènes ont trouvé la mort ces 3 dernières semaines alors qu'ils se trouvaient en détention. Un homme de 37 ans du peuple Barkindji, Anzac Sullivan, est mort lors d'une poursuite policière à Broken Hill la semaine dernière. Ce décès est survenu peu de temps après la mort des 2 aborigènes dans des prisons de la Nouvelle-Galles du Sud et un autre décédé au Victoria. Selon le service juridique aborigène, il est urgent de rendre des comptes sur ces décès. Et le gouvernement fédéral a dit avoir débloqué 135 millions de dollars supplémentaires pour aider l'industrie des arts et du divertissement, donc l'aider à se remettre de la pandémie de coronavirus. La plupart des fonds viennent s'ajouter à un fonds de relance déjà en place pour soutenir les entreprises artistiques et les sociétés de production. La nouvelle enveloppe porte le budget de soutien aux artistes à 200 millions de dollars. Le ministre fédéral des Arts, Paul Fletcher, a déclaré que le programme de subvention vise à aider les gens à rester au travail.
This is about jobs. We're getting performers and creatives back on stage. We're getting the backstage crew back to work and front of house as well. The ushers, the people in the ticket office.
On signale qu'une enveloppe supplémentaire de 10 millions de dollars sera aussi débloquée pour apporter une aide financière aux artistes et différents groupes en difficulté dans le cadre d'une loi votée au Parlement. Et moins d'une semaine après de nouvelles restrictions sanitaires dans 16 départements en France, le gouvernement a décidé de les appliquer à 3 autres départements. Il s'agit du Rhône, de l'Aube et de la Nièvre. Les nouvelles mesures incluent l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes à l'extérieur. Entre-temps, confrontés à un nombre croissant de malades de Covid, des patients non-Covid sont déprogrammés par les hôpitaux. Pour Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes de France, cette situation est liée au manque d'anticipation de la 3e vague.
Alors oui, les hôpitaux sont sous tension, mais cette tension était prévisible et rien n'a été fait pour se préparer. Nous n'avons créé aucun lit de réanimation supplémentaire en France depuis 1 an. C'est le plus grand scandale de notre pays, soi-disant la 5e ou la 6e puissance mondiale. C'est quand même catastrophique.
C'était Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes de France, au micro de RFI. Facebook affirme avoir bloqué un groupe de pirates informatiques en Chine qui utilisait la plateforme pour cibler des centaines d'Ouïghours vivant à l'étranger. Les pirates ciblaient leurs victimes avec des logiciels malveillants qui infectaient leurs appareils et permettaient la surveillance. Le géant des réseaux sociaux a déclaré que les pirates informatiques avaient concentré leurs opérations sur des militants, des journalistes et des dissidents qui appartenant principalement aux groupes ethniques musulmans. Facebook affirme que les cibles provenaient en grande partie de la région du Xinjiang en Chine, mais vivaient principalement à l'étranger dans des pays tels que la Turquie, le Kazakhstan, les États-Unis, la Syrie, l'Australie et le Canada. La majeure partie des activités de piratage se serait produite ailleurs que sur Facebook, mais le piratage se servait de la plateforme pour partager des liens vers des sites web malveillants. La route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie reste bloquée alors que 10 remorqueurs luttent pour libérer l'un des plus grands porte-conteneurs du monde bloqué dans le canal de Suez en Égypte. L'Eva Given de 400 mètres s'est échouée dans le canal après avoir perdu la capacité de naviguer en pleine période de vents violents et d'une tempête de poussière. Un responsable égyptien a déclaré que l'opération de renflouement du porte-conteneur pourrait durer au moins 2 jours, ce qui créera un effet d'entraînement majeur pour le transport maritime mondial. Il faut rappeler qu'environ 30% des conteneurs maritimes transitent par le canal de Suez chaque jour, transportant tout du carburant aux biens de consommation. Retour en Australie où plusieurs musiciens australiens internationaux ont rendu hommage hier à Michael Gudinski, figure emblématique de la musique australienne, dans une cérémonie funèbre consacrée par l'État de Victoria. Plus de 7000 personnes ont rempli la Rod Laver Arena en souvenir de Gudinski, qui, on le rappelle, était cofondateur de Mushroom Records et il est décédé plus tôt ce mois à l'âge de 68 ans. Kylie Minogue, Paul Kelly et Ed Sheeran étaient parmi les personnes présentes. Et dans cette cérémonie, des artistes et différentes personnalités ont exprimé leur admiration et leur amour pour l'homme, autrement connu comme le parrain de la musique australienne. Jimmy Bunce dit qu'il ne serait pas là où il est sans Gudinski.
Michael Gudinski was my mate. He was my brother. He was my partner in crime. We laughed, we fought, we cried together. We did everything together. I've been making music with Michael since 1983. It's nearly 40 years that we've been working together. I've known him for nearly 50. And before that, I looked up to him.
Et un coup d'œil météo à travers l'Australie, Perth 26 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 20, Hobart 21, Canberra 21, Wollongong 25 degrés, Sydney 28, Newcastle 27, Brisbane 31, Cairns 32 et Darwin 31 degrés. Et un rappel des titres, les vols internationaux vers Melbourne reprendront à partir du 8 avril. Et une allégation d'agression sexuelle contre un parlementaire de la Nouvelle-Galles du Sud. Et en France, 3 départements supplémentaires sur la liste des zones soumises à des restrictions sanitaires strictes. C'est tout pour l'actualité. Après la pause, le magazine des sports avec Christophe Mallet.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.